Choix 98.1
Radio X.
Marceau.
Hey, man.
Marceau.
Hey, man.
Le soir.
Ladies and gentlemen.
Marceau, le soir.
Marceau.
Avec Marceau.
Hey, man.
Radio X.
Stéphane Leblond, chez Leblond et Associés, salut.
Salut.
Est-ce que ça te surprend, ce nouveau discours du trône-là?
Une orgie de dépenses,
oui.
Là, c'est...
Money, money.
Ouais, c'est comme si ça pousse dans les arbres, là. Moi, ce que j'ai bien aimé, là, de Julie Payette, là.
Oui.
Ça, c'est celle qui est allée sur la Lune, ça.
Elle n'est pas allée sur la Lune, elle est allée dans l'espace.
Elle est allée dans l'espace, mais c'est elle qui est bête aussi, comme ses deux pieds, semble-t-il.
Ouais, faut faire attention à ce qu'on dit ici, parce qu'on peut se ramasser dans le Journal de Québec.
Oh, oui.
Mal interprété, là.
Ou le gars des vidanges, il va s'en charger. moi, ce que j'ai retenu, là, c'est qu'elle n'a pas insulté aucun de ses employés pendant qu'elle lisait le discours
oui,
du trône.
Oui, c'était un bon moment pour elle.
Oui, oui. Puis ce qui s'avait là, quand tu regardais là, la prise de vue, là, elle est habillée tout en blanc, elle lisait
oui.
un grand livre. C'est comme si elle lisait Le Petit Prince avec devant des enfants qui étaient hors champ. Là.
Oui.
Ça ressemblait vraiment à ça. Coupe le son, là, puis imagine-toi Le Petit Prince, puis c'est la même affaire.
Exact, exact. Mais je ne sais pas où est-ce qu'on va s'en aller avec ça. Le déficit, il est énorme. On parle de presque quoi? 500 millions, là? Qu'on...
Milliards.
500 milliards.
3 zéros de plus.
Oui, une petite différence, je pense.
C'est juste du zéro.
Donc, c'est ça. Est-ce qu'on va dépasser ça?
Ah ben oui. Moi, je prédisais, là, il y a 15 jours, 3 semaines, je te prédisais là, 500 milliards. Là. Mais finalement, là, ce ne sera pas ça. Ça va être 600 milliards. Ils sont capables. Ils vont essayer, puis ils sont capables. Je lui fais confiance.
Ouais.
C'est pour ça que c'est savoir si le gouvernement va être défait, il mérite d'être défait. T'sais, les conservateurs ont dit qu'ils allaient voter contre le discours du trône. Blanchette, il l'avait dit il y a 15 jours, là, il n'est plus trop sûr parce qu'il attend de savoir quel bonbon il va avoir.
Mm-hmm.
Le NPD, il joue à putain politique, là, ça, c'est évident. Fait que si quelqu'un, à part les libéraux, vote pour ce discours du trône-là...
Ça va être le NPD.
Ils vont perdre... le peu de respect que j'ai encore pour les politiciens.
OK. Hey, ce soir, Stéphane Leblond de chez Leblond et Associés, syndic autorisé en insolvabilité. On parle de deux trucs. J'aime beaucoup tes deux sujets. Entre autres, le dernier, on va parler là, pour les gens qui te doivent de l'argent. Là, tu fais comment pour les collecter? Hein? Ton ex, là.
C'est bon.
Vos
ça.
Ex vous doivent encore 2 000 $, 5 000 $, 10 000 $. Faites comment pour les collecter? Quel genre de moyens il existe? Tu sais quoi? J'ai plein de chums de gars qui ont passé de l'argent à leur conjointe, qui sont devenus leur ex-conjointe et ils n'ont jamais revu cet argent-là, malheureusement.
Ouais. Puis des histoires de chums aussi qui prêtent de l'argent à leur chum parce que c'est un bon chum.
Ouais.
Il y en a beaucoup. Puis malheureusement, souvent, tu ne la revois pas, cet argent-là.
Ça. Donc, stay tuned pour ce sujet-là. Mais pour l'instant, on parle de Mountain Equipment Co-op qui s'est récemment placé sous la loi de la protection de la faillite.
Oui, de fait, c'est la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la
oui.
CCAA. j'ai cherché un petit peu, parce que c'est une compagnie qui existe depuis près de 50 ans. Là. Ça a été fondé en 1971. Puis j'ai trouvé des affaires pas pires là-dessus, parce que, tu sais, Mountain Equipment Co-op, ils ont été dans Saint-Roch. Il y avait le rez-de-chaussée où c'était le syndicat de Québec. Puis, il avait déménagé il y a quelques années dans le local qui avait été laissé vide dans le Bourgneuf par Future Shop. Puis, ils ont mis des millions là-dedans. Alors, c'est une coopérative, Mountain Equipment Co-op. Alors, ça veut dire que ça vend seulement à ses membres. Fait que si vous rentrez dans une coop sans être membre, bien, quand tu arrives à la caisse, ils te demandent ton numéro de membre, tu ne l'as pas, ils te vendent une carte 5 $. Puis, c'est le même prix pour le membership que depuis la fondation qui était en 1971. Fait qu'en 71, un petit groupe de 6 passionnés des sports de montagne, c'est à la côte ouest du Canada, ils commençaient à trouver ça pas mal poche de devoir tout le temps aller de l'autre côté de la frontière, à Seattle, dans l'État de Washington, pour acheter de l'équipement qui a de l'allure. Alors, ils décident de fonder la coop. Fait qu'eux autres, ils se disent, ben regarde, on va pooler une gang de personnes, puis on va pouvoir acheter ça à meilleur prix, avoir un prix de gros, puis pouvoir redistribuer ça à nos membres. Alors, pendant les 3 premières années, la coop a été opérée uniquement par des bénévoles, jusqu'à ce qu'elle puisse supporter un magasin pendant des heures d'ouverture normale, acheter du stock, etc. Puis le premier magasin à Vancouver, c'était pas un endroit de commerce comme on les a aujourd'hui, où tu rentres, puis tu as des racks, puis tu as une caisse, puis tu payes. C'était une place où L'expression anglaise, c'est « hang out ». On allait se tenir là, jaser, prendre des conseils, planifier des excursions, puis placoter avec d'autres.
C'est une gang de passionnés.
Exactement. C'est une gang de passionnés. Puis c'était l'esprit de la création de la coop. Mm-hmm. Puis après ça, ben, tu sais, veux, veux pas, ça a augmenté. 1972, ils ont fait leur premier catalogue. Une page dactylographiée. Pour ceux qui ne savent pas dactylographier, vous regarderez dans le dictionnaire. Tapé sur la porte du local de l'association étudiante de l'Université de British Columbia. Puis à l'époque, il y avait 250 membres, essentiellement des étudiants de l'association étudiante de UBC. En 73, ils ont déménagé d'un plus grand local. 74, 700 membres. Puis on commence, ce coup-là, à poster le catalogue. 76, en plus de vendre de l'équipement, on commence à en louer. Là, ça augmente tranquillement, 81, 57 000 membres. En 89, il y a eu une grosse une marée noire qui avait magané la côte ouest de l'île de Vancouver. Alors, il y a une grande partie du staff qui ont pris congé, puis qui sont allés pendant des semaines nettoyer ça, puis la coop a décidé de leur payer le dépenses, puis de leur payer des honoraires. En 90, un élément marquant, 250 000 membres, wow. C'est du stock, c'était 1% de la population du Canada à l'époque. Dans les années qui ont suivi, bon, ils ont fait leur site Internet, ils ont commencé à produire des vélos, d'autres équipements, ils ont fait une application pour les téléphones intelligents. Puis en 2017, 5 millions de membres. Ça, c'est plus de 10% de la population du Canada.
C'est fou.
C'est fou. Mazan, c'est fou.
OK, mais je veux juste revenir au départ. Là. Tout le monde payait 5$ pour devenir membre. C'est une coop. Dans une coop, à qui vont les profits s'il en reste à la fin d'année?
Ils redistribuent entre les membres. Au cours des années, plus tu achètes, le principe, c'était plus tu achètes, puis à la fin de l'année, ta ristourne va augmenter. Il y avait une ristourne à tous les membres les années où ils faisaient de l'argent. Puis ça a augmenté tranquillement. De fait, les gens, l'année qui ont donné la plus grosse ristourne, je pense que c'était 2016, on a fait comme 4,8 millions répartis à tous les membres, mais au prorata des achats que tu avais faits.
À l'intérieur de la business. OK.
Quand même, c'est complexe comme système quand t'es rendu avec autant de membres.
Oui, mais c'est simple.
C'est comme Desjardins.
Ouais.
Desjardins, c'est une coopérative. Ouais. Alors, si tu as des instruments de prêt, tu vas avoir un pourcentage de ça. Tu vas avoir, si tu as des placements, tu vas avoir un pourcentage de ça.
Ouais.
Si tu payes des frais bancaires, tu vas récupérer une partie de ça. Mais c'est le conseil d'administration qui dit on a un surplus de temps, on envoie une partie d'un réserve d'un coup qu'il y a des années plus difficiles, puis il y a une partie qu'on redistribue entre les membres, puis ils établissent ces critères.
Non, j'aime ça.
Ouais. Puis là, il est arrivé 2016. 2016, ça a commencé. Les performances financières n'étaient plus au rendez-vous. 2016, 2017, 2018, 2019. En 2019, la haute direction a dit ben, il nous faut un plan pour revirer ça de bord, faire des changements significatifs. Fait qu'il y a un comité spécial du conseil d'administration qui a été nommé pour regarder ce qu'on pouvait faire. Alors, eux autres, ils ont regardé tout ce qui était possible de regarder. Ils ont consulté 65 institutions financières pour refinancer. Ils ont exploré différents programmes gouvernementaux. Ils ont regardé la possibilité d'un cash call. Un cash call, c'est tu demandes à tous les membres là, de cracher de l'argent pour faire du capital. Puis, ultimement, c'est la vente qui s'est révélée être la seule option pour sauver Mountain Equipment Cooperative de la faillite ou de la liquidation. Fait que ces derniers jours, là, de fait... La coopérative a écrit à tous les membres le 18 septembre. Alors, je suis membre de la coopérative. Elle leur a expliqué la situation. Pourquoi la CCAA? Alors, il explique que c'est pour préserver autant que possible la valeur de l'entreprise. Puis, évidemment, pour au niveau des employés, conserver les emplois. Parce que tu avais plus de 5000 employés dans la coopérative. Il y a des membres qui se sont demandé pourquoi... on n'a pas consulté les membres avant de prendre cette décision-là. Ben, la loi, c'est les arrangements avec les créanciers des compagnies. Ce qu'elle prévoit, c'est le conseil d'administration qui décide de ça, ce genre de choses-là. Puis finalement, la compagnie a déposé ça. C'est l'acheteur potentiel, c'est une compagnie qui s'appelle Kingswood, qui devrait être en mesure de rencontrer lors de l'achat les objectifs que le conseil d'administration de la coop s'était fixé. Puis, évidemment, les créanciers qui sont visés par l'arrangement vont tous être contactés si ce n'est pas déjà fait. Il va y avoir une assemblée de créanciers, une proposition qui va être faite aux diverses catégories de créanciers. Puis, il va y avoir une vente qui va devoir être approuvée par la Cour. Puis après ça, les sommes provenant de la vente vont être distribuées selon ce qui va avoir été prévu dans le plan d'arrangement.
Puis est-ce qu'on garde l'entité comme étant une coop, même si ça appartient à une entreprise privée, ou ça devient automatiquement
non,
une entreprise privée?
Ça va devenir une entreprise privée. De fait, ce sera plus... ils vont probablement garder le nom MEC, là,
ouais.
Mais ce sera plus pour Mountain Equipment Cooperative, ça va être Mountain Equipment Corporation.
Ouais.
Ou quelque chose dans ce
style-là. Mais ça aurait-il été possible de transférer la coopérative, probablement?
Ben oui, tu peux faire une autre coopérative, mais ça dépend toujours de la possibilité de rencontrer tes objectifs.
Ouais, c'est mm-hmm. ça.
Money talks.
Ouais, puis c'est une entreprise qui est à peu près dans le même domaine. C'est, la coopérative peut acheter des produits de cette entreprise-là qui sont devenus les propriétaires. Il y a cette stratégie-là aussi. Ah, mais je trouve ça intéressant de savoir qu'une coopérative de ce genre-là peut se transformer en entreprise privée.
Ouais.
Puis là, toi, tu vas-tu revoir ton 5$?
Ben, non, ça, 5$, j'ai mis une croix dessus, malheureusement. Ouais. Oui. Mais elle ne sera pas transformée. Là, elle va vendre ses actifs
ouais.
à une compagnie privée dans le cadre de l'arrangement. Elle ne se transforme pas.
OK.
Alors, tu sais, elle va, une fois que les actifs vont être vendus, elle va probablement abandonner sa charte ou se liquider puis demander une radiation là, au service des coopératives là, de la Colombie-Britannique. C'est pour ça, d'ailleurs, en Colombie-Britannique, que le dossier a été déposé. C'est là qu'était le siège social.
OK.
Mais ça faisait des beaux magasins. Je suis allé visiter en février celui-là de Toronto. C'est un Christy de beau magasin. Puis c'est là que je suis devenu membre de la coopérative.
Oui, c'était à la toute fin. Finalement.
À la toute fin, oui.
Les derniers membres qui sont... Mais voyons, lui, comment ça, il est membre.
Il était charmé. Il dit, ça vaut mon 5$. Ça vaut mon 5$. Et puis, il y a quelque chose que j'ai vu popper aujourd'hui. Puis pourtant, j'ai pas fait de recherche par rapport à ça. Peut-être que mon cellulaire écoutait d'autres conversations dont j'ai pas pris part. Mais j'ai vu une compagnie X de crédit. Là. Je sais pas, moi, tu as besoin de 250$ ou 500$. Contacte-moi, tout le monde. Tout le monde peut avoir accès au crédit. Je comprends qu'il y a un certain pourcentage sur le prêt que tu vas devoir payer. Là. Mais comment ces entreprises-là font pour faire du micro-prêt? Puis c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre pour être sûr certain de revoir cet argent-là? C'est pas des caisses, c'est pas des banques.
C'est parce qu'eux autres, là, ils ont des marges. Avec ce qu'ils chargent comme frais, là, c'est tellement élevé là,
ouais.
que il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui se rendent jusqu'au bout de leur prêt, là, puis il n'y a pas de problème. T'sais, dans un dossier, pas plus tard qu'hier, une compagnie, pas de Québec, là, mais qui fait de la location d'automobiles. Elle loue des chars usagés. Fait que la compagnie, elle avait loué, mettons, je sais pas, un Honda Civic 2011, à un gars qui avait de la misère avec son crédit. La valeur du char, sur le contrat, c'est 8 300$. On loue 8 300$. Puis là, après ça, on y vend... une garantie prolongée. On y vend de l'assurance vie, de l'assurance invalidité. Après ça, des frais de ci, puis des frais de ça. Finalement, c'est une location de 4 ans, okay, qui coûtait 82$ et quelques par mois. Puis après 4 ans, là, le char de 8 300$, sa vraie valeur, que tu as loué pour 4 ans, il t'a coûté 22 900$.
Ouch!
Mais c'est parce que les gens ne lisent pas.
Non, c'est ça.
82$ par semaine, c'est pas grave, je suis capable. Ça. C'est combien de café, 82$ par semaine?
OK, 82$ par semaine, parce que tu avais dit 82$ par mois.
Non, c'est 82$ par semaine. Fait que tu sais, les gens, c'est pas grave, 82$ par semaine.
C'est 320$ pour Honda Civic. Là, aussi.
Ouais, mais c'est parce que tu sais, 4 ans plus tard, le Honda Civic, qui est un 2009 ou un 2009. 2010, là, il va avoir de l'âge aussi. Là,
400
il va
nécessiter 000 kilos. Plus.
Ben oui, c'est ça. C'est un char qui avait 100 quelques mille kilomètres aussi. Fait que, tu sais, les gens lisent pas, soit parce que ça les intéresse pas ou ils comprennent pas le contrat en tant que tel. Pourtant, les contrats au Québec sont relativement simples, puis le contenu du contrat est régi par la loi de la protection sur la protection du consommateur. Ou encore, ils achètent un paiement. Ah, 82$ par semaine, c'est 11$ par jour. C'est pas si pire que ça. Mais... c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu regardes le big picture. C'est
ouais.
Comment ça te coûte, là? C'est quoi la vraie valeur que tu as pour 22 000$?
Puis est-ce que ces entreprises-là de micro-prêts sont régies par une quelconque autorité qui les surveille?
Bien, les prêts, les contrats de prêt doivent être... le contenu doit être conforme à la loi de protection du consommateur. Puis même, c'est pour ça, dans les contrats d'automobile, les contrats de prêt ou de location d'automobile, ils doivent reproduire certains éléments de la loi sur la protection du consommateur. Mais même à ça, les gens lisent pas ça. Tu sais, quand les gens viennent me voir, ils disent « Ouais, je me suis embarqué dans une affaire, là, puis le vendeur me dit ça, puis ouais, c'est parce que tu l'as autorisé à ça. » Il a le droit de faire ça. Regarde, c'est marqué dans ton contrat, la deuxième page. Là. Tu sais, quand c'est écrit serré, serré sur deux pages et demie, là,
ouais.
C'est là-dedans que c'est enterré.
Parce que dans le cas d'une voiture, ils peuvent venir chercher la voiture en disant « Regarde, tu ne payes pas, on reprend le char. » Mais dans le cas d'un micro-prêt de 500$, là...
Ben, le cas de micro-prêt, il va le perdre. Si, mettons, la personne fait faillite ou elle ne paye pas, elle disparaît, ben, c'est perdu. Mais tu sais, quand, mettons, tu vas emprunter 700$, ils vont te dire « Regarde, tu vas nous signer un papier par lequel on va trouver un courtier. Tu vas mandater un courtier qui va coûter 170$ pour trouver le prêt. » C'est une façon de donner 170$ à une autre compagnie. Fait que de fait, tu empruntes 700$, puis tu dois 900$ en partant à des taux qui sont importants, puis à des frais qui sont importants.
OK. Fait que c'est comme ça qu'ils travaillent puis qu'ils font leur argent.
C'est ça. Mais tu sais, faut dans certains cas, certains très, très, très rares cas, là, ça se peut que ce soit ça, la solution. Mais tu sais, c'est très, 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 très rare. Puis avant de vous embarquer là-dedans, pensez-y à deux fois. Explorez les autres options qui vous coûteraient peut-être moins cher.
Puis ces gens-là à qui tu empruntes 500$, ils peuvent-tu, puis tu payes pas, ça peut-tu affecter ton crédit?
Bien, ça peut affecter ton crédit s'ils sont membres Equifax ou TransUnion, okay. Qui transmettent l'information. Mais tu sais, généralement...
On se le cachera pas, Stéphane, les gens qui sont derrière ça, bien souvent, c'est des groupes qui blanchissent l'argent, là.
Ah, ça, je sais pas, là, mais... chose certaine, c'est qu'ils font de la publicité dans les médias sociaux, ils font de la publicité exact. Dans les quotidiens, sur Internet, partout, là. T'sais, c'est facile aujourd'hui, par Facebook, tu es capable de cibler, là, tu sais, le travailleur... col bleu, qui est ouais. entre tel âge et tel âge, puis qui a plus de 4 cartes de crédit. Là. Tu sais, ça peut être ton client potentiel.
OK. Parfait. Maintenant, mon ex me doit 5 000$. J'ai-tu une façon de faire pour récupérer cet argent-là?
Bon, l'important, là, c'est si tu as été prudent, tu as fait des papiers avec elle.
OK. Comment ça fonctionne? C'est quel papier je fais?
Papier. Ben, ça n'a pas besoin d'être bien compliqué. Tu dis je, Yannick Marceau. Ben, la personne qui emprunte, elle dit je, Béatrice Laframboise, reconnaît devoir.
Béatrice Laframboise.
Oui, oui. C'est commun.
C'est sexy.
Reconnaît devoir 5 000$ à Yannick Marceau, puis je m'engage à lui rembourser selon les modalités suivantes. 100$ par mois pendant 50 mois.
OK.
Puis si je ne le paye pas après 50 mois, ben là, il y a un taux d'intérêt de 30$ qui est
dû. Tu fais pas ça à ta blonde, il charge de l'intérêt?
Tout le monde signe ça. Puis s'il y a un problème, tu as un papier pour commencer.
T'sais. OK.
Un contrat verbal, si tu dis, garde Béatrice, je vais te prêter 5 000$, puis rembourse-moi ça 100$ par mois pendant 50 mois, c'est aussi bon. Le problème, c'est toujours d'en faire la preuve. Parce que Béatrice... Après 3 mois qu'elle ne t'aura pas payé, elle ne s'en souviendra plus de ce contrat-là.
Ou elle t'a quitté.
Mais si elle t'a quitté, elle va s'en souvenir encore moins.
Mm-hmm.
Ni des bons moments non plus. Alors, il faut commencer par avoir un papier. Si elle ne te paye pas, puis tu as un papier, ben, tu vas commencer par y écrire. Car Béatrice, je t'ai prêté telle chose, tant de piastres, tu es en retard sur le paiement, peux-tu au moins m'envoyer les paiements de retard? Puis si... tu ne me payes pas, ben, je devrais prendre des mesures pour récupérer mon argent. Tu peux essayer, après ça, si ça ne fonctionne pas, tu peux y aller d'une façon plus musclée. Tu dis à un de tes chums qui est avocat, pourrais-tu envoyer une mise en demeure pour me payer? Okay. Ça va te coûter quelques piastres.
Fait que tu lui fais faire un papier. Après ouais. ça, si elle ne te paye pas, tu lui envoies une lettre, courrier recommandé?
Ben oui, ça laisse des traces.
Comme ça, elle ne peut pas dire « moi, j'ai jamais reçu ça ».
Mais l'idée, là, c'est de toujours laisser des traces. Tu as fait un papier au début pour laisser des traces.
Oui.
Quand tu y écris pour réclamer ton argent, tu envoies ça par courrier recommandé. Ben, en temps normal, quand il n'y a pas de COVID, là, le facteur, il fait signer la madame. Là.
C'est ça.
Ça laisse des traces. Si elle ne te paye pas, puis elle se fout de l'avocat ou tu confies ça à une agence de recouvrement, puis elle se fout de ça, ben là, tu peux... aller, soit si tu as un petit montant, aller à court des petites créances. OK? Ça, le désavantage de ça, c'est que c'est long. Ça ne t'assure pas que tu vas récupérer ton argent. Par contre, il y a des options. T'sais, si toi, tu demandes la médiation, quand tu remplis ta demande pour la Cour des petites créances, il te demande est-ce que tu accepterais de participer à une médiation. Ça, c'est pas pire, la médiation. Puis idéalement, ça prouve que tu es ouvert d'esprit. Puis si elle, si elle propose quelque chose qui a de l'allure, regarde, le gros bon sens, c'est le même pour tout le monde. Ouais. Alors, c'est trop long. Si le montant est plus élevé, mais ça va être la Cour du Québec, la Cour supérieure, etc. Si elle ne te paye pas, tu obtiens un jugement, c'est pas parce que tu as un jugement que tu vas être payé. T'sais, tu vas obtenir ton jugement, tu vas contacter une boîte de huissier pour qu'elle exécute le jugement. Puis il dit, ben regarde, tout ce qu'elle a, c'est le linge qu'elle a sur le dos, puis quelques souliers dans le garde-robe, puis elle a pas de char, puis elle a pas de bien saisissable. Mais là, tu peux avoir d'autres options. Si vraiment, si mettons, elle a posé des gestes de faillite, tu peux prendre une requête pour ordonnance de séquestre, mais ça, c'est plus rare, on voit plus ça au niveau commercial. Mais si elle fait faillite, si mettons, elle dit, ben regarde, toi... Yannick, je te dois 5 000, je dois 6 000 à Jean-Maurice, je dois ma carte de crédit Visa Desjardins, je dois Easy Financial, puis elle fait faillite. C'est quoi qui se passe pour toi? Bon, elle, quand elle va aller chez le syndic, elle va lister tous ses créanciers, puis le syndic va écrire à chacun de ses créanciers-là un avis qui est prescrit dans la loi qui dit quand Béatrice Laframboise, elle a fait faillite entre mes mains telle date, le syndic envoie avec cet avis-là un état de son actif, ce qu'elle possède, les meubles qu'il y a chez elle, tel bebel, un petit REER. Il envoie la liste des créanciers. Okay? Alors, tu vois toutes les personnes à qui elle doit de l'argent. Il y a aussi un budget. Tu vois qu'elle gagne 2 500 $ net par mois, elle reste seule ou elle reste avec un nouveau chum, ce qui est frustrant pour toi.
À qui elle emprunte de l'argent?
Oui, c'est ça. Mais puis là, ça va établir un montant qu'elle doit payer au syndic à tous les mois pendant le temps qu'elle est en faillite. Si toi, tu as des raisons de croire que ces documents-là sont pas représentatifs de la réalité, tu peux appeler le syndic. Tu dis, regarde, monsieur le syndic, là, elle a oublié de vous dire qu'elle avait hérité de son père puis qu'elle va avoir un héritage dans les prochains mois. Ou encore, tu sais, elle vous a pas parlé de sa Corvette 73, là, que ça a coûté 10 000 réparée, puis que, tu sais, condition showroom. Alors ça, tu peux dire ça au syndic, puis le syndic va prendre les mesures appropriées pour soit l'interroger ou récupérer ses biens-là. Une fois, puis tu peux aussi, si tu es un créancier important, tu peux demander à ce que le syndic convoque une assemblée de créanciers. Tu dis au syndic, regarde, moi je représente plus que 25% là, de l'ensemble des créanciers. Je demande à ce qu'il y ait une assemblée de créanciers qui soit convoquée. Le syndic convoque l'assemblée des créanciers, ça se passe généralement à son bureau. Puis là, le syndic, il va faire un rapport sur son administration à date. Il va dire, regarde, j'ai posé tel geste, j'ai fait telle affaire, j'ai fait telle enquête, j'ai fait tel ci, tel ça. Puis après ça, tu vas avoir la possibilité, comme créancier, de poser des questions au syndic sur son administration à date. Puis tu vas avoir une possibilité de poser des questions à Béatrice sur c'est quoi qui est arrivé, c'est quoi les causes de sa faillite, pourquoi elle n'a pas pris entente avec toi, puis c'est quoi avoir su qu'elle avait beaucoup d'autres dettes comme ça, tu n'y aurais pas prêté. Mais tu sais, toujours, ça reste respectueux parce que le syndic, comme n'importe quel officier de la cour, il ne tolère pas des explosions là, de colère ou d'émotions comme ça. Si les réponses sont vaseuses, puis tu estimes qu'elle a abusé de toi, ben tu peux t'opposer à sa libération quand le temps sera venu. Il y a des motifs pour s'opposer, par contre. Juste dire « j'ai pas été payé », c'est pas un motif. Alors, tu peux dire « regarde, c'est sa deuxième faillite. Elle n'a pas tenu compte de ses pertes au fur et à mesure qu'elle était dans le commerce. » Il y a une série de causes que tu peux... pas de causes, mais de raisons pour t'opposer à sa libération.
Il semble que dans les années 70, vous aviez un de vos chums qui vous devait de l'argent, puis il répondait plus au téléphone, t'envoyais deux gars, puis il revenait avec l'argent.
Ben ouais, c'est ça, mais... Ouais.
Ça marche plus, ça. Hein?
Les clubs d'enthousiastes de la motocyclette, là. Mais si tu t'opposes à sa libération, par contre, ça veut pas dire non plus que tu vas être payé, parce que tu t'opposes pour l'ensemble des créanciers. Quand tu vas arriver à l'audition sur la demande de libération, tu vas expliquer les motifs de ton opposition au registraire des faillites, qui va avoir pris connaissance du rapport du syndic. le registraire va interroger la personne qui demande sa libération. Toi, tu vas pouvoir l'interroger comme créancier opposant. Puis le registraire des faillites va rendre une décision. Tu sais, ça va être une de trois décisions. Soit qu'il ne tient pas compte de ton opposition puis qu'il la libère de façon absolue, sauf les dettes non libérables. Soit qu'il va dire, ben regarde, là, c'est... Le créancier, il y a peut-être des affaires pas pires là, contre toi, là. Alors, je vais... Par contre, comme tu n'as pas beaucoup de revenus, je vais te libérer, mais au lieu de prendre effet tout de suite, ta libération, ça va prendre effet dans 2 mois ou 3 mois. Ou encore, ce qu'il peut dire le registraire, c'est... Regarde, il y a certains points, l'opposant, puis le syndic, dans son rapport, il dit que ta collaboration n'était pas terrible. Alors, je vais te condamner à payer 2 000 $, mettons, à tes créanciers, puis tu vas avoir tant de temps pour payer ça. Puis ce 2 000 $-là va être remis au syndic. Dès qu'elle va avoir payé, elle va être libérée de sa faillite. Puis, ce 2 000 $-là va être séparé entre les créanciers selon un ordre qui est établi dans la loi sur la faillite. Alors, l'ordre, c'est une partie des frais du syndic. Puis le surplus des frais du syndic, c'est distribué généralement entre les créanciers non garantis au prorata de leur créance. Alors, si le syndic, mettons, 1 000 $ à distribuer à 10 000 $ de créanciers, tout le monde va avoir 10 %. Mais, tu sais, c'est plutôt rare là, qu'il y ait des conditions pécuniaires à payer pour obtenir la libération. Ce qu'on voit souvent, c'est quand c'est le ministère de l'Éducation qui s'oppose à la libération d'un débiteur, puis c'est des montants importants, puis le ministère de l'Éducation, il représente une grande partie des créances. Ça peut être dans les cas de grands débiteurs fiscaux. Le ministère du Revenu s'oppose à la libération d'un médecin qui doit 500 000 $ d'impôts. Alors lui, comme il a plus de revenus que toi et moi, bien, il va être condamné à payer un montant. Ouais, il va être condamné à payer un montant plus important. Puis là, les créanciers, essentiellement Revenu Canada, Revenu Québec, dans la plupart des cas, il va récupérer plus de son opposition.
Okay.
Il va être bénéficiaire de ça.
Mais faire tout ça pour, mettons, 200 $, si elle devait 5 000, à la base, ça prend beaucoup de volonté.
Il faut être très motivé.
Ou beaucoup de haine.
Oui, mais tu sais, si c'est la haine qui te motive, ben le registraire des faillites, il va être. Il en voit assez dans une année là, pour déterminer. Regarde, c'est juste un ex-amant frustré, puis il n'embarquera pas là-dedans.
OK. Ah, ça, c'est intéressant.
Mais ça arrive, ça.
Ouais.
Ça arrive. On le voit à l'occasion.
Tu vois, il y a quelqu'un qui m'écrit. J'entendais parler pour ce qui est des gens qui font du micro-prêt sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Les seules conditions à avoir, c'est qu'il faut que tu aies un emploi fixe depuis 6 mois. Puis j'en ai un qui me dit, c'est Kevin, il dit « Salut, moi j'ai fait un prêt de 750 $ sur 6 mois et en bout de ligne, ça m'a coûté 1165 $, donc 1165 $. »
C'est ça. Alors, faut être prudent, faut bien lire les documents, là, pas juste signer électroniquement, tu t'embarques dans quelque chose, parce que les gens qui font faillite, qui ont ce genre de créanciers-là, ils n'ont pas juste un. Tu sais, crédit 911, crédit ci, crédit ça, prêt 106, sans ça. Alors, tu sais, ils n'ont 7-8, là. Mais il faut être prudent avec ce genre de crédit-là. Si, toi, au lieu de prêter à Béatrice, tu as prêté à la compagnie de Béatrice. Parce que la Béatrice, elle appartenait à une entreprise de design intérieur. Ça s'appelait Béatrice la Framboise Incorporée. Puis toi... Mais tu te rends compte que la compagnie, elle a fait faillite,
ouais.
Tu es convoqué à l'Assemblée des créanciers, puis à un moment donné, tu sors le papier que tu as signé, que tu as eu la prudence de faire signer à Béatrice, qui dit, regarde, moi, Béatrice, représentante de Béatrice La Framboise Incorporée, je reconnais devoir 5 000 $ à Yannick Marceau, puis je vais y rembourser selon telle modalité. Puis toi, tu dis, Béatrice, regarde, ta compagnie, elle n'a rien, fait que tu vas cautionner aussi. Tu vas signer pour ta compagnie, puis, on va rajouter une clause. Si la compagnie, elle ne paye pas, bien, toi, tu es responsable personnellement de cette dette-là.
OK.
Fait que si la compagnie fait faillite, tu as toujours ton recours contre Béatrice. Mais c'est pas parce que tu es assez prudent pour prévoir ça que tu vas être plus payé non plus. Parce que Béatrice, quand elle a parti son entreprise, elle a endossé sa marge de crédit de la compagnie à la Caisse populaire. Elle est responsable des remises de TPS, TVQ, déduction à la source. Fait que ça se peut que tu te retrouves loin aussi, mais par contre, tu as une protection supplémentaire, si tu veux. Mais tu sais, quand tu prêtes à des gens proches, là, on dit souvent, là, tu sais, faites-le pas. Mais quand t'es pogné pour le faire, faut que ce soit vraiment quelqu'un de proche, puis quelqu'un que tu sais qui est responsable. Tu sais, si mettons ton gars de 22 ans, il veut s'acheter un char, puis c'est pas une BMW qu'il va acheter, c'est un, je sais pas, un Toyota Corolla qui a 7-8 ans, puis il a besoin que tu l'endosses sur 5 000 $. Si tu sais que ton petit gars, il travaille, il est sérieux, il prend pas un coup, ou pas trop, puis il reste chez vous, puis tu es capable de savoir ce qu'il fait, puis les amis qu'il fréquente, ça, il n'y a pas de problème. Mais un de tes chums, il arrive à la job, puis il dit, ah, c'est, passerais-tu 2 000 $? Moi, tu le remettre dans 3-4 mois, là, j'attends une grosse rentrée d'argent. Ben là, il faut être prudent.
Oui. Est-ce que tu peux demander, puis c'est une question de Pierre, est-ce que tu peux demander des choses en garantie?
Oui, tu peux demander des choses en garantie. Tu peux prendre une hypothèque sur sa maison, si le montant est important, puis ça le justifie.
Fait que un chum te dit, moi, j'ai besoin de love money, là, je veux partir de mon entreprise, puis la caisse, ça ne me fait pas nécessairement confiance parce que j'ai pas les fonds nécessaires, mais ma maison vaut tant, puis j'ai tant de dégager là-dessus. Tu peux prendre une hypothèque légale sur sa maison.
Ben, c'est pas une hypothèque légale, là. C'est une hypothèque conventionnelle.
Conventionnelle.
Tu vas chez le notaire, tu fais un document de prêt, puis tu vas chez le notaire, puis tu dis, regarde, voici, là, Jean-Maurice, il me donne une hypothèque de 25 000 $ sur sa maison. Il va faire toute la paperasse. Puis si, à un moment donné, il n'est plus capable de payer, ben, dans l'acte d'hypothèque, c'est prévu le recours hypothécaire. C'est quoi les recours comme prêteur s'il ne te paye pas? Sauf que généralement, tu vas être après le créancier hypothécaire qui est la Caisse populaire ou la Banque de Montréal. Puis s'il ne paye pas non plus la Banque de Montréal, mais tu risques de te faire shifter là, si la Banque de Montréal entreprend son recours hypothécaire à elle. Tu peux récupérer une partie de ton argent, mais ça va dépendre toujours de ce qui est dû avant toi.
Franchement intéressant. Je pense que tu as aidé plusieurs personnes. Solange, je dis, elle est un peu d'accord avec toi. La meilleure façon de perdre un ami, c'est de lui prêter de l'argent.
Oui, définitivement. Parce que tu sais, les gens se rendent compte que c'est dur de dire non.
Ah oui, c'est dur.
C'est dur de dire non.
Puis il y a des gens qui jouent avec ça.
Ah, définitivement.
Mais mettons, dans le cadre de la business, là, tu fais affaire avec quelqu'un qui te vend des produits, mais cette entreprise-là manque de fonds, puis elle te demande 10 000 $, mettons. Est-ce que ça se fait, ça, justement, puis avec des reçus? Est-ce que tu as le droit de prêter de l'argent entre entreprises?
Ben oui, tu as le droit de prêter de l'argent entre entreprises.
OK.
Mais, tu sais, encore là, il faut des papiers. Si elle est rendue à pu avoir assez d'argent pour ses opérations, c'est parce que probablement sa marge de crédit est pas mal à côté. Puis le banquier, pour garantir la marge de crédit, il a une hypothèque sur tout. Les équipements, les inventaires, les endossements, puis tout. Fait que, si à un moment donné, il arrive une bad luck, tu vas être loin là, pour récupérer ton argent.
C'est ça.
Tu sais, quelqu'un qui te dit, ouais, tu me prêtes pas 2 000 $, je pensais que tu étais mon ami. Tu dis, ben justement, c'est parce que je suis ton ami et je veux le rester.
Oui.
Alors, il y a un paquet de banques, de caisses populaires, de compagnies de finances qui peuvent être là, puis on va rester amis. Donc.
Puis il y a la consolidation de dette aussi qui peut être vraiment intéressant, je pense.
Ben, la consolidation de dette, ça, c'est regrouper toutes les petites dettes qui traînent à gauche puis à droite, puis faire un paiement avec un taux d'intérêt idéalement moins élevé que les prêts que tu vas payer avec ça. Ça peut être une bonne solution dans certains cas, mais quand c'est juste... si on peut dire ça à la radio, prendre un paquet de petits tas de marde pour faire un gros tas de marde, mais ça reste de la marde pareil.
On peut pas dire ça.
Mais c'est quoi qu'on dit à notre ami? C'est qui la personne qu'il faut qu'il aille voir, son conseiller financier?
Ben regarde, si c'est quelqu'un de sérieux puis qui fait affaire avec la même caisse ou la même banque depuis des années, là, qu'elle aille voir, tu sais, la banque est dans le business de prêter de l'argent, là. Ils vont lui dire, regarde, oui, voici, on peut te prêter. Voici nos conditions. Toi, t'as des petites coche mal taillée dans ton dossier de crédit, ben, au lieu de te prêter à 7 %, ça va être 12 %.
Ouais, des fois, on est gêné, mais c'est eux qui connaissent le plus ça. Puis je veux dire, c'est eux c'est qui envoient à longueur de journée.
Ah ouais, c'est leur
moins
business.
Gênant d'aller à la caisse que de demander à ton ami, je pense.
C'est ça.
Tu vois, Steve dit, je change les prénoms, là, fait que si tu vois ça passer, pose-toi pas de questions. Steve dit, salut, mon chum m'a demandé 10 000 $, son véhicule en valait 12 000, il y a, on a passé à la SAC, il m'a vendu son char, il a tout payé ce que la SAC m'a demandé de payer, donc le véhicule m'appartenait, il continue à le rouler, et à partir du moment où il m'a remboursé, ben j'ai remis le véhicule à son nom.
Oui, ça, il peut avoir, par contre, des problèmes au niveau des assurances. Ce qu'il aurait pu faire aussi, c'est de prendre une hypothèque mobilière sur le véhicule. Alors, s'il avait voulu le vendre, la personne, ben, l'acheteur aurait vérifié au RDPRM, le registre des droits personnels et réels mobiliers, il aurait vu que le char de Jean-Maurice qu'il veut acheter, ben, il y a une hypothèque qu'il a donnée à Marc-Alexandre. Fait qu'il dit, ben, regarde, paye-le, là. Puis après ça, quand tu me montreras la quittance, là, on va faire notre transaction sur le char.
OK. Tu vois, il y a des entreprises qui se spécialisent dans l'hypothèque mobilière.
Oui, définitivement, oui.
tu nous en apprends des choses.
Ah, il est là pour ça.
Pour des gens qui ont des difficultés financières, puis ils voient plus le bout d'arriver, ils sont tannés de recevoir des appels de gens à qui ils doivent de l'argent. Comment ils font pour se soulager?
Les gens de Québec, 418-525-4641. Les gens de l'extérieur, 1-877-525-4641. Il y a le site go-syndic-leblon.com puis la page Facebook Leblon Associé.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Marceau. Marceau. Le soir. Radio X.